Vélodrome en direct toute la journée sur Graphite.
De retour sur les ondes de Graphite 94.9, www.graphite.net, on est en direct, on coupe, on se rebranche, direction Saint-Jean-en-Chaussée, toujours pour parler du Livre-Drome toute la journée avec des auteurs, des autrices, des dessinateurs, dessinatrices et illustrateurs, illustratrices, on va peut-être tous les faire comme ça. On a en notre compagnie justement un scénariste et également dessinateur, on a Dawid avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors pour cette interview, ce sera Lucas, notre jeune reporter du collège Louise Michel de Saint-Jean-en-Chaussée qui va s'y coller. Et bah Lucas, c'est à toi.
Bonjour Dawid, vous êtes scénariste, dessinateur. Vous étiez ce matin à la Fabrique à Bulle pour un atelier qui s'appelle « Créer ta BD ». En quoi consiste cette rencontre ?
Alors cette rencontre en à peu près une heure et quart et avait pour but d'expliquer comment on a créé ensemble un personnage, un des personnages de ma série qui s'appelle Super. Donc on a dessiné pas à pas, on l'a construit, le visage, le corps. J'ai expliqué un peu aux enfants comment construire ce personnage, comment était articulé un personnage pour voilà. Et on a enchaîné sur une petite page de BD que j'avais préparé un découpage d'une page de 5 cases. On a fait les 3 premières cases pas à pas ensemble, en variant, j'aurais fait de faire comprendre en variant les plans, en faisant un peu plus d'ensemble au départ, en mettant notre personnage en situation et en mouvement aussi, en le faisant marcher, voilà. Et quelque chose se passe dans la deuxième case, un bruit survient, le personnage est surpris, donc voilà, on travaille aussi sur l'expression du personnage, sur son visage. On zoome sur la troisième case sur ce personnage en gros plan, voilà, du coup on aborde très succinctement, mais quand même les variations de plans qu'on peut sur lesquels on travaille quand on fait une page de bande dessinée. Et voilà, les deux dernières cases, ils devaient imaginer la fin, donc ce que voyait le personnage principal, et à la fin une chute. Voilà.
C'est ce qu'on appelle un strip, c'est fait horizontalement ?
Non, un strip, c'est vraiment une bande dessinée qui est sur horizontalement en 3-4 cases. Voilà, c'est comme les Peanuts de Snoopy, Calvin et Hobbes, etc. Donc là, non, on a vraiment fait une pleine page de 5 cases.
Comment avez-vous découvert la bande dessinée et à quel âge avez-vous voulu faire votre métier ?
Comme on dit souvent, moi la BD, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc avant même de savoir lire, j'ai dû commencer, je crois, si je me souviens bien, avec Tintin, que je feuilletais constamment. Et puis très vite, j'ai enchaîné sur tous les classiques, Astérix, Lucky Luke, Spirou, le journal de Mickey, le journal de Spirou, Bouley Bill, etc. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans constamment, et j'ai fait au point que en classe de CE1, donc à 7 ans je crois, 7-8 ans, j'ai pris un cahier de brouillon, j'ai commencé à faire mes premières BD. Alors voilà, c'était des petites histoires de 2 pages, 3 pages, et puis peu à peu ça s'est étoffé. J'ai fait ça toute ma scolarité, à chaque fois c'était de plus en plus ambitieux, je faisais presque un album entier. Et puis, mais je ne pensais pas du tout en faire mon métier à cette époque-là. J'imaginais même pas, je pense, que c'était un métier. Et puis finalement, j'étais passé un petit peu à autre chose en grandissant. Et puis finalement, ça m'est revenu et c'est devenu finalement mon métier.
Alors justement, vous avez fait une bande dessinée où il n'y a pas de parole,
ouais.
Pour... emmener les jeunes vers la BD, ou peut-être les gens qui savent pas lire ou qui savent pas encore lire, c'était le choix de les plonger, ou plutôt d'aller chercher les jeunes très 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 très, très tôt, d'aller chercher.
Non, c'était pas un choix, ça s'est fait un petit peu comme ça, de façon. Non, c'était vraiment pas calculé. Effectivement, après, l'intérêt des BD sans texte comme ça, c'est de permettre aux primo-lecteurs, donc les enfants qui ne savent pas encore lire, déjà d'aborder le médium BD, de comprendre finalement instinctivement le sens de lecture, etc. Et de comprendre aussi l'histoire sans texte, justement, en ne sachant pas encore lire. Donc ça s'est fait comme ça. Alors j'en ai fait plusieurs avant de travailler avec les éditions de La Gouttière, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et j'en avais fait deux autres précédemment chez un autre éditeur. Et puis La Gouttière, effectivement, a été créée il y a une quinzaine d'années en travaillant autour de ce type de lectorat. Donc voilà, et on s'est retrouvé à faire le projet qui s'appelle Passe-Passe, avec Delphine Cuvel, une scénariste.
Donc il y a aux éditions de La Gouttière, il y a des BD sans texte, des premières lectures, des tout public. C'est, c'est ça un peu le...
Oui, oui, au départ c'était vraiment axé vraiment très très jeune. C'était une, bande, une maison d'édition qui était... qui visait, qui était spécialisé uniquement en lectorat jeunesse, avec d'abord des primo-lecteurs, et puis finalement ça s'est étendu peu à peu au fil du temps, et là ça touche un lectorat qui va jusqu'au presque aux ados, hein, parce que la, l'autre série sur laquelle je travaille, Les Super, c'est vraiment tout public même, je dirais.
Okay.
Pourriez-vous, pourriez-vous décrire votre style aux auditrices?
Mon style, il est, je pense, clairement inspiré de la BD franco-belge quand même. Hein, c'est mes influences principales. Après, je reste très curieux de tout ce qui se fait actuellement. Donc, ça peut aussi, je peux aller puiser dans d'autres sources d'inspiration plus récentes. Parfois même le manga, hein, que je connais pas si bien que ça, mais qui m'intéresse aussi. Mais voilà, des fois on me dit que j'ai un style reconnaissable, ce qui est déjà agréable. Mais c'est une influence quand même assez franco-belge, ouais.
Franco-belge chez Tintin, Quick et Fluc, Boule et Bill, Spirou.
Ouais, je pense pas mal Spirou. Hein, Lucky Luke, je pense aussi, je me rends compte. Tintin. Ouais, toute cette école, hein. Oui, oui.
Vous êtes l'auteur de la série Super. De quoi parle cette BD ?
La Super, c'est une histoire qui a été créée par Frédéric Maupomet, un scénariste avec qui je travaille depuis maintenant 10 ans, parce qu'on travaille, ça va faire 10 ans qu'on travaille sur la série. Et c'est l'histoire de trois enfants, une fratrie qui vient d'une autre planète. Ce sont des extraterrestres. Trois enfants, Matt, Lily et Benji. Et il se trouve qu'ils ont été abandonnés par leurs parents sur Terre. Ils ne savent même plus pourquoi, c'était il y a bien longtemps, ils étaient encore très très jeunes. Et ils se retrouvent tout seuls sur Terre à devoir se débrouiller. Les parents leur ont laissé quand même un petit robot, une intelligence artificielle qui s'appelle Hal, qui va les aider un peu dans leur quotidien. Et ils vont essayer de s'intégrer tant bien que mal dans le monde des humains, en allant pour l'aîné au collège et les deux autres à l'école. Et le truc, c'est que ces enfants ont des super pouvoirs. Voilà, il y a un petit clin d'œil à Superman, bien sûr, hein. Ils viennent d'une autre planète, ils ont des super pouvoirs. Et tu imagines bien qu'à ton âge, par exemple, tu te retrouves, t'es tout jeune, t'es tout seul, t'as pas de parents, t'as des super pouvoirs, t'as un peu envie de t'en servir. Et le but quand même, en même temps, c'est qu'ils se fassent pas remarquer. Hein, parce que pareil, des enfants qui n'ont pas de parents, c'est un peu insolite. Hein. Et donc voilà, et donc évidemment... En particulier le petit frère qui est un petit peu tout fou et qui ça part dans tous les sens va faire quelques bêtises et voilà, et ils vont se retrouver. Alors ils vont vouloir utiliser leur pouvoir pour aider, hein, pour faire le bien, mais du coup ils vont se faire repérer par les services sociaux, par la police, par les services secrets, etc. Et donc il va arriver tout un tas d'aventures.
Pour revenir à l'atelier de ce matin, quel conseil pouvez-vous nous donner pour faire sa propre BD ? Faut-il écrire l'histoire avant le dessin ?
Alors moi, quand j'avais votre âge, je t'avoue que je ne crois pas que j'écrivais l'histoire avant, comme on a tendance à faire quand même quand on est professionnel. Donc je partais direct dans mes trucs comme ça, et puis j'improvisais un peu. Voilà, donc il faut faire selon ses envies, ce que tu as envie de raconter. Le conseil que je donne toujours, c'est de toute façon, faire de la BD, il n'y a pas de secret, il faut dessiner tout le temps, faire des pages, parce que c'est quand tu fais des pages de bande dessinée, des planches, que tu vas te confronter aux difficultés de la narration, de comment mettre en scène une histoire et la découper en cases. Et donc voilà, il faut faire des pages, et puis ça marche, ça marche pas. Tu les montres à tes camarades, tes parents, pour leur faire lire et voir s'ils comprennent. S'ils comprennent pas tout bien, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas. Mais voilà, il faut... À la base, il faut, si tu sais quelque chose, il faut vraiment avoir la motivation et l'envie de raconter des histoires.
Alors justement, sur le fait de vivre de son métier, de toucher de l'argent en étant rémunéré, on sait que tout ce monde-là est un petit peu fragile, on va dire. Mm-hmm. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait vivre ? C'est la vente des BD ou toutes les animations qu'il peut y avoir autour ? Je crois qu'hier, vous étiez on a marché sur la bulle à Amiens. Mm-hmm. C'est quoi aujourd'hui la rémunération d'un auteur, d'un illustrateur ?
Effectivement, c'est très 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 variable. Ça dépend des maisons d'édition, ça dépend du nombre de livres qu'on fait, qu'on sort. Donc, pour ma part, elle vient principalement quand même de mon travail sur mes albums, donc en tant que dessinateur. En annexe, un petit peu quelques animations en plus, mais j'ai la chance de vivre surtout sur mes. mais les albums que je réalise, donc pour lesquels je suis effectivement payé, plus des droits d'auteur. Mais oui, c'est un peu le Far West.
C'est un peu comme les musiciens, vous avez des avances sur vos prochaines ventes, c'est ça?
Ouais,
c'est
ouais,
ça.
On a des avances sur droits, comme on appelle, et qui sont ensuite remboursées au fil des ventes, enfin par l'auditeur se rembourse. Et dès qu'on a atteint un certain seuil, on reçoit ensuite des droits d'auteur.
C'est quoi, pour avoir une idée, le volume de vente de BD, de vos BD, c'est quoi?
Alors la série qui se vend le mieux, c'est Super, et donc je sais plus, alors j'oublie toujours les chiffres, je suis pas trop ça très près, mais je crois que le tome 1, on doit être à 30 ou 40 000 exemplaires, donc ce qui est tout à fait correct de nos jours, puisque de nos jours on dit qu'il y a beaucoup de production, ce qui est très chouette, mais effectivement du coup tout est un peu noyé dans la masse, et voilà, quand le dernier album que j'ai fait, enfin non pas le dernier, mais si, chez Glénat, mon éditrice m'avait dit, bon déjà si on en vend 3 000 ce sera bien. Je serais contente. Bon, on a fait un peu plus, heureusement. Mais voilà. Donc,
Quelle est votre actualité?
Mon actualité, c'est le prochain bouquin qui sort là. C'est une BD plus ado-adulte qui sortira chez Dargo à la rentrée, là, le 5 septembre, qui s'appelle Les Cheveux d'Edith. Donc voilà, c'est plus à partir du... C'est ado-adulte plus lycéen et puis adulte, bien sûr. Ça se passe en 1945 à Paris, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est mon actualité. Et puis, ah, si, j'ai aussi un petit livre jeunesse illustré qui sort fin août, avec Richard Petitsigne au scénario. Et puis là, je commence à travailler sur le prochain super, le dernier tome, qui sortira dans un peu plus d'un an.
Donc c'est le dernier tome de la série ou c'est la série s'arrête pas après?
A priori, elle s'arrête. Voilà. Ce sera une conclusion. Il y a deux cycles. Il y a un premier cycle de 5 tomes et le deuxième cycle qui sera en 4 tomes. Donc je suis en train de travailler sur le quatrième.
Vous avez également participé, notamment on en a un devant les yeux, on a les enquêtes polaires de Philippe Imloma, hein, qui toutes les histoires se déroulent proche de chez nous, à Amiens. Mm-hmm. C'est quoi la rencontre avec Greg Bondin et Dominique Zaizé? Comment ça se prononce?
Dominique, voilà, sur cette série je suis coloriste, Dominique est scénariste, Greg dessine. Tous les deux ils se connaissaient depuis je crois quelques temps parce qu'ils sont tous les deux amiennois, donc parce que l'histoire est ancrée en Picardie et principalement à Amiens, hein. Et moi je les ai rencontrés via les éditions de La Gouttière, chez qui c'est édité et chez qui ont également édité les super, sont amiennois. Et donc le rapprochement s'est fait comme ça. Pascal Mériot, qui dirige les éditions de La Gouttière, m'avait contacté, il m'avait dit tiens, on cherche un coloriste pour cette série. Voilà, je me suis collé.
Donc le coloriste, c'est celui qui met en couleur la BD. Il y a un échange avec le dessinateur, avec l'auteur, ou vous faites une proposition et en général, elle est toujours acceptée?
Non, je fais une proposition et puis c'est bon. Ils sont OK, je suis trop bon. non, mais oui, il y a une discussion, ouais, en fait, quand même. Mais voilà, oui. Parfois le dessinateur, ce qui arrive parfois, c'est qu'il donne des indications, bien sûr, de couleur. Hein, mais là, j'étais vraiment très libre de ce point de vue.
Alors tout à l'heure, il y aura un atelier sur l'IA, l'intelligence artificielle, dans la bande dessinée.
D'accord.
Est-ce que le métier de coloriste est voué à disparaître avec l'intelligence artificielle?
C'est vrai que coloriste, c'est peut-être le métier qui est le plus menacé directement. Parce que quand on fait de la couleur, principalement, on fait beaucoup ça en numérique maintenant, en plus. Il y a la fameuse phase qui est un petit peu rébarbative quand on fait de la couleur en numérique, c'est de poser les aplats de couleur.
C'est les fonds, c'est ça?
C'est les fonds, toutes les... Voilà. Donc il est effectivement possible que ce soit le genre d'étape qui soit prise en charge par une IA à force. Hein, ouais. Après, bon, certainement qu'il y aura à un moment donné des IA qui feront tout. Bon, voilà, on verra. J'avoue que c'est pas très réjouissant. C'est pas très intéressant non plus.
C'est l'avenir.
Je sais pas si... Je suis pas sûr.
Merci d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions. Merci Lucas pour tes questions.
Merci.
Bonne journée. Et vous allez faire quoi cet après-midi? Vous allez revoir les autres stands? Parce que là, vous avez plus de rencontres.
Je crois qu'il y a des gens qui me sollicitent pour un peu de dédicace, ce qui n'était pas prévu, mais c'est très agréable quand même. Et j'ai une autre rencontre avec une autre classe, je crois. Et puis le fameux cabinet d'ordonnance, où là, on rencontre des gens individuellement et on leur recommande un livre à lire.
Donc tout à l'heure, vous allez prescrire des remèdes.
Voilà, je vais faire le médecin, je ne sais pas comment on appelle ça.
Le médecin prescripteur.
Prescripteur, illustrateur.
Merci beaucoup.
Médecin littéraire.
Merci. Voilà. Le Livrodrome à Saint-Just-en-Chaussée. Toute la journée sur Graphite.
Livre-Drome 2025 avec l'étape à Saint-Juan-en-Chaussée, toujours en direct et en public hein, pour cet événement. On vous rappelle la fréquence de la radio 94.9, www.graphite.net et très bientôt en DAB+, hein, sur vos postes numériques. On va écouter un extrait de livre sonore qui a été enregistré par les élèves du collège Louise Michel, c'est les 6e, et on écoute l'extrait « L'oiseau de malheur ».
Chers auditeurs, nous sommes les élèves du collège Louise Michel de Saint-Justin-Chaussée et nous allons vous présenter les livres du prix littéraire des collégiens 2025. Gabriel, Léa, Chloé, Siane et Lola vont vous parler de « Oiseau de malheur », un livre écrit par Jocelyn Boisdevert et illustré par Simone Hélé. Gabriel, peux-tu nous dire quelques mots sur l'auteur ?
Oui, bien sûr. Jocelyn Boisdevert est un scénariste et écrivain canadien. Il a grandi à Sherbrooke et séjourne aux îles de la Madeleine. Il écrit pour la jeunesse depuis une vingtaine d'années et a publié plus de 40 romans.
Le livre parle d'une famille partant en vacances dans un camping pour photographier des oiseaux, mais tout ne va pas se passer comme prévu. La famille va se retrouver coincée, se faisant attaquer par des étourneaux. Ils devront donc se débrouiller pour s'en sortir sans être grièvement blessés. Mais ils seront au final tous grièvement blessés, sauf le petit garçon Maxime. Il sera au final traumatisé.
Ils volent dans le ciel comme un banc de poissons, se déplacent dans l'eau, se suivant les uns des autres dans une chorégraphie impeccable. Le voyageur ralentit pour admirer l'impressionnant ballet aérien. Il va se faire lapider, craint Antoine, et qui appuie sur le klaxon pour attirer son attention. Lucie baisse la vitre de la voiture. « Monsieur, monsieur, venez ici, vite !» L'homme s'arrête et contemple le véhicule mal garé, sans voir les oiseaux qui se regroupent prêts à charger. « Venez vous mettre à l'abri dans la voiture !» crie Lucie, avant que l'homme ait le temps de se rapprocher. Un escadron de passereaux se jette sur lui, le renverse au sol avec son hule.
Merci pour cette lecture, Léa. Siane, peux-tu nous dire ce que tu as aimé dans ce livre et pourquoi tu pourrais le conseiller à d'autres lecteurs ?
Je peux vous le conseiller, car il y a de belles illustrations, les écritures sont grosses, donc cela facilite la lecture. Ce livre comporte de l'action et du suspense, mais soyez rassurés, il ne fait pas si peur.
Le Livre-Drome, en direct toute la journée sur Graphite.